Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. Je suis Maxime, faites-moi un petit coucou si vous m'entendez pour commencer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Et cette fois-ci, à votre demande, nous allons donc parler de cette fameuse conférence de l'illustre Edgar Tolle, qui est venu pour la toute première fois en France pour nous parler du moment présent, du pouvoir du moment présent et nous expliquer sa version à lui de qu'est-ce que c'est que vivre dans le moment présent. Donc c'est génial. Voilà, c'est la toute première fois. C'était au Grand Rex à Paris. Et puis je vais vous raconter tout ça. Avant, voilà, dites-moi si tout va bien, si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien, si l'image est bonne, si le son est bon, si tout est OK, si vous êtes confortablement installé. Et puis on va pouvoir commencer. Donc pour ceux qui, voilà, pour qui c'est la première fois, je rappelle rapidement le principe de fonctionnement de ces lives, qui sont dédiés aux chercheurs sincères, donc au groupe privé que j'anime sur Facebook. Il suffit d'être abonné à bonheur.tv pour y accéder, ou alors faire partie avant des anciens clients qui avaient déjà ça dans le package, je crois, si on peut dire. Et puis, c'est des lives que je fais à thème, c'est-à-dire je vous demande finalement de quoi vous avez besoin, quelles sont les préoccupations du moment. Et puis, je fabrique une formation comme ça, en direct. Et puis, je vous en fais part de vive voix. Et puis, on peut échanger comme ça ensuite pour pouvoir avancer efficacement sur ce qui est important pour vous. Voilà. Donc bonjour à tous, il y a Thierry qui est là, oui tout va bien, il y a Françoise qui dit bonjour à tous, c'est super, content de vous retrouver. Et puis on va commencer donc cette conférence, alors il faut déjà se remettre dans le contexte, hein. C'est tout un événement, hein. C'est Edgar Tolle qui réserve donc le Grand Rex. Le Grand Rex c'est en gros 2700 places assises, et puis à Paris, je ne sais plus exactement quel arrondissement c'est d'ailleurs. C'est dans le deuxième, je crois. Donc voilà. Et puis, c'est fluide d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, hein, 2700. Et pour autant, la file d'attente avance très sereinement, très tranquillement. C'est peut-être déjà une ambiance, finalement, de moment présent, très agréable. Avec des gens, bien évidemment, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, sourient. Voilà, ils sont contents d'être là et ça se voit, ça se ressent. Et puis on s'installe dans cette immense salle avec une grande, grande, grande auréole rouge comme ça. Et une auréole qui va changer de couleur au fur et à mesure de la présentation. C'est très joli, avec différentes hauteurs. Hein, moi j'étais à l'étage, donc je voyais les choses de haut. Et puis il y a une première présentation, une introduction par Jérôme Oliveira. Voilà, si je prononce bien, qui est l'organisateur de l'événement avec My Project, le staff de Edgar Tolle. Et puis qui annonce, voilà, qui dit, qui explique que voilà, ça lui parle beaucoup. Il a fait comme beaucoup d'entre nous, il a commencé à lire le premier livre, hein, Le pouvoir du moment présent, puis le deuxième, Être en pratique. Et puis il a voulu rencontrer cet homme-là et puis aller plus loin. Et il s'est dit, la meilleure façon pour aller plus loin, c'est de le rencontrer. Donc il a fabriqué un événement. Et puis voilà, et puis il laisse la place à Monsieur Edgar Tolle, un petit bonhomme complètement voûté, qui arrive, qui s'installe. Juste, il y a un tapis, il y a une chaise, il y a une petite table basse avec des fleurs. Puis voilà, il arrive là et il regarde tout le monde et il fait ça. Et puis il part. Juste en aparté, j'ai commandé le replay, j'ai acheté le replay, donc je le diffuserai également sur bonheur.tv, donc vous pourrez par la suite en plus regarder la vraie conférence en différé. Je la mettrai à votre disposition et puis comme ça vous pourrez suivre. C'était en anglais et c'était retranscrit au fur et à mesure. Donc il y avait un petit décalage entre le texte qui s'affichait à l'écran, puisque c'était projeté sur un écran géant, bien sûr. Et puis les paroles d'Edgar. Et voilà, donc fallait lire très vite par moment. Et puis il y a d'autres moments où il y avait des tout petits bouts de phrases qu'on voyait longtemps. Vous verrez par la suite ce que ça donne. Et puis bon, si vous parlez anglais, c'est mieux. Voilà, ce qui n'est pas complètement mon cas, mais on s'en sort quand même entre les deux. Forcément, qu'on capte des brides. Et puis voilà, puis l'ambiance également, l'ambiance générale Rien que ça, c'est chouette. Voilà. Et donc, il commence, Edgar Tolle, par nous raconter le mythe de Narcisse, cette fameuse histoire dans laquelle il existe un personnage, donc Narcisse, qui est beau, qui est un homme magnifique, et puis qui, un jour, voit le reflet de son visage dans l'eau, dans un lac. Il tombe amoureux de cette projection de lui-même. Et à tel point que finalement, il se perd dans cette identification. Il s'identifie à ça, il se prend pour ça. Il devient dépendant de ce miroir, de cette image de lui-même, de cette représentation qu'il a de lui-même. Et l'ego naît. Et ça finit mal, c'est tragique, bien évidemment. Il finit par se suicider. Il y a plusieurs. J'ai fait des recherches par la suite. Il y a plusieurs chutes possibles, hein, de l'histoire. Mais dans une de ces histoires, eh ben, il se perd, il s'identifie, il devient. Voilà, il se suicide parce qu'il n'arrivera jamais à quitter cette identification de lui. Et puis. Voilà, l'ego fait son job et ça finit mal. Et Edgar Tolle commence comme ça en disant, ben. Voilà, en nous parlant d'identification, de cette image que l'on a de nous-mêmes, cette représentation, et du coup, il appelle ça des concepts. C'est-à-dire le concept du mental, que ce mental s'accroche à ce qu'il pense être, et naît cette identification. Et il dit, toute notre vie, on passe notre vie, en fait, à construire notre identité par plein de petits bouts de choses qu'on fige et qu'on isole. C'est-à-dire, il m'est arrivé quelque chose une fois, donc je me dis, bah voilà, la vie c'est ça. Quand je fais ça, il se passe ça. Tac. Ça, c'est mon histoire, je la fige, je m'identifie et je consolide cette chose. Je la consolide tellement que finalement, je suis persuadé que c'est ça la vie. Et du coup, comme je ne laisse pas la vie me proposer autre chose, je reproduis et je crée petit à petit ce qu'on appelle l'identité, le profil de personnalité, ce pourquoi je me prends l'image. La conception que j'ai de comment sont les choses. Et c'est la construction de l'ego, petit à petit, qu'il se fait. Et il dit, on peut s'identifier à plein de choses. On peut s'identifier, bien sûr, au corps, comme Narcisse qui s'identifie à son image. C'est-à-dire, je me prends pour ce que je vois. Je me prends pour un corps. Et a priori, ça semble normal, puisque tout le monde a l'air de faire ça. Donc, je suis ce corps-là. Et ça pose un problème, dit Edgar Tolle, parce que quand vous vieillissez, cette image, elle change. Ou alors, quand on est enceinte, l'image, elle change. Ou alors quand, je sais pas. Il y a plein de possibilités, et de toute façon, c'est inéluctable. La forme change. Et que l'identification au corps, l'identification à la représentation de notre corps, ne peut être que souffrance à terme, puisque si on n'accepte pas d'être autre chose que la représentation de ce corps, il ne peut y avoir que souffrance, puisque c'est de l'illusion. Nous ne sommes pas que notre corps, même si dans un facteur temps, nous l'intégrons, effectivement, ce corps. Et puis Edgar dit, va plus loin, et dit aussi, il y a une autre identification qui est l'identification aux pensées. Je suis ce que je pense. Par rapport, comme je disais, par rapport à ce qui s'est passé, ou par rapport à ce qu'on m'a dit, parce que on s'identifie, bien sûr, à un passé, qu'on ramène dans le présent, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas expérimentées par nous-mêmes. C'est-à-dire, les qu'en dira-t-on? Des principes, des croyances, des idées reçues, ce qui vient de l'inconscient collectif. On se prend pour, on s'identifie à, ou on imagine que, par rapport à, des choses vécues ou pas vécues. Ah, tu sais, un couple, c'est difficile. Hein, on a tous entendu ça. Du coup, on part de ce postulat-là. Ou alors, ah, trouver un métier passionnant, c'est compliqué. Ou alors, ah, je sais pas, bah, la vie c'est dur, faut manger ton pain dur tous les jours, à chaque jour suffit sa peine. Enfin bon, il ouais, y en a, hein, y en a, il y en a, il y en a. Et ça, c'est de la pensée. Mais on n'a pas vécu tout ça. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues, mais qu'on considère comme juste, malgré tout, comme vrai. Et on se dit, bah, c'est comme ça. Mais on n'en sait absolument rien, puisqu'on n'a pas expérimenté par nous-mêmes. Et c'est ça, l'idée de fond, à ce moment-là, dans cette première partie d'Edgar Tolle, qui nous dit, mais essayez de reprendre de l'autonomie. Essayez d'être votre propre juge en expérimentant les choses et en essayant d'arrêter de mettre des concepts, qu'il appelle ça, conceptualiser la pensée, conceptualiser l'image, conceptualiser le corps, sortir d'un ego qui identifie tout. Prendre plus de la hauteur et arrêter d'identifier chaque chose, d'arrêter de juger chaque chose, parce que c'est du jugement. Tout ce qui est étiquette est un jugement. Et bien sûr, avec le moment présent, l'idée c'est d'inclure, bien évidemment, mais il en parle un peu plus tard. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'issue fertile, il n'y a pas d'issue agréable, il n'y a pas d'issue satisfaisante dans cette identification, parce que plus les choses sont figées, plus on entretient des certitudes, ça ce sont mes mots, hein, mais plus on entretient des certitudes sur tout, et moins on laisse la possibilité que les choses soient autrement. Donc il n'y a pas d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, il y a donc de la fermeture, de la rigidité, et donc un manque de souplesse, un manque d'agilité, un manque de capacité à surfer sur ce que la vie nous propose, parce que son intention à la vie, c'est vraiment de nous emmener vers notre réalisation profonde, mais si on l'en empêche, parce qu'on est persuadé au travers de nos concepts que les choses sont comme ça ou comme ça ou comme ça, eh ben on freine finalement cette évolution, et à un moment donné, la vie nous dit non, 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 je ne peux pas te laisser te mentir à toi-même, je ne peux pas te laisser t'interdire de te réaliser. Et donc elle nous envoie des événements, des choses plus dures, de manière à ce qu'on lâche prise et qu'on tende enfin vers cette chose plus nourrissante et plus grande, vers nous. Et il dit, se prendre pour un corps, c'est de l'illusion. Enfin, se prendre exclusivement pour un corps, c'est de l'illusion. Se prendre pour des pensées, c'est de l'illusion. Se prendre pour un ego, c'est de l'illusion. Se prendre pour une histoire passée, c'est de l'illusion. Se prendre pour une éventualité future, c'est de l'illusion. Il dit tout ça n'existe pas. Tout ça est un concept créé par un mental. Mental qui s'identifie, qui se cristallise dans un ego. Voilà. Ça, c'est toute sa première partie de. Voilà, il pose le problème. Il pose le mécanisme. Et c'est pas vraiment de notre faute. Je sais pas s'il le dit, ça, je m'en souviens plus. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on est programmé. Il n'y a personne qui nous dit que ça marche pas comme ça, la vie. On l'apprend qu'après, en se rendant compte par nous-mêmes qu'il y a un problème. Le disque est rayé. Ça ne fonctionne pas. Et ça génère de la souffrance. Et donc, il y a quelques chercheurs sincères, comme vous, qui disent non mais comment on fait? Et il y a quelques personnes comme lui qui nous donnent des pistes, des billes et une voie. Ok? Vous voyez ça? C'est génial. Pose un socle là. Ça vous parle? Vous aimez? C'est chouette à vivre, chouette à entendre. Et donc, je continue. Une fois qu'on a fait ce constat-là, une fois qu'on comprend l'image de Narcisse qui se reflète, l'identification, donc du coup, cette espèce de double qu'on appelle l'ego, le mental. Je vais reprendre mes autres notes que j'avais mises là aussi. Alors, il explique aussi, il prend cet exemple de l'identification aussi aux choses. L'identification au corps, l'identification aux pensées, l'identification. Je prends l'exemple d'un enfant qui s'identifie à ce qu'il possède. Il n'y a pas que l'enfant, du coup. Mais en tout cas, il y a une première construction comme ça, dans laquelle ça, c'est un moi. Le moi. Le moi, l'appartenance, la possession, où il y a un lien, finalement, qui exclut si c'est moi, c'est pas toi. Il y a une espèce de. À ce moment-là. Et on ne dit pas que c'est mal. Parce que, effectivement, toi c'est toi et moi c'est moi, hein, on est d'accord. Mais, et ça c'est la partie saine de l'ego, on a besoin d'être identifié pour pas justement se mélanger à tout, pour exister à part entière, okay? Pour que notre différence puisse être utile à travers de nos dons et nos talents respectifs tout à chacun. Et en même temps, le pendant de ça, le côté négatif de ça, c'est cette exclusion avec cette espèce de notion d'exclusion, d'appartenance, le moi. Et Carré dit, il dit enlever à un enfant son jouet, l'enfant qui
qui a conceptualisé que ceci est son jouet, si vous lui enlevez, c'est pas tant le fait de lui enlever le jouet, parce que il dit, de toute façon, il va l'oublier dans deux fractions de seconde, et puis quand il va en avoir un nouveau, l'ancien, il s'en moquera éperdument. Mais c'est cette espèce d'arrachement à c'est à moi. C'est à moi. Il y a une espèce de défense à ce moment-là, de défense de on touche pas à ce qui est à moi, comme une possession, comme l'identité, pareil. Hein, ceci est mon corps, ceci est à moi, le moi. Mais ça, c'est le petit moi, c'est pas le grand soi. Hein, c'est le petit moi de l'identification. C'est aussi pour ça que parfois c'est difficile de changer, parce que finalement, si on n'est plus ce pourquoi on se prend, qui je suis, hein? Et là, il y a un gouffre qui s'ouvre. C'est là où c'est pas forcément. C'est là où il y a un cap, un palier, un toboggan. Il faut glisser dans ce nouveau monde dans lequel il y a pas d'identification. Je ne suis pas forcément ce pourquoi je me prends. Ok? Et donc il nous explique, avec sa voix toujours très... il est rigolo, ouais. Il fait plein de blagues à plein de moments. Il se moque un peu, il fait de l'autodérision. Il se moque de lui, parce que bien sûr il l'a vécu, il se moque de nous, il se moque de tout le monde, il se moque de ce fonctionnement-là, voilà, qui est rigolo, quand on arrive à le regarder de haut. Et puis il embraye sur... Sur du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on peut souffrir, mais que ça sert pas à rien. Il dit, et c'est moi, c'est là où j'explique qu'il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère, c'est qu'il dit qu'à travers les épreuves de la vie, naissent des apprentissages. Il dit ça, on peut pas le voir tout de suite comme ça, spontanément. Il dit on a besoin de faire cette expérience, d'expérimenter, de vivre quelque chose qui nous montre des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est qu'au travers de cette expérience et possiblement des choses pas faciles à vivre, que vient une prise de conscience. Qu'on met le doigt sur des choses qui, avant, qu'on passait à côté. Et dit, dans chaque épreuve existe une évolution. Hein, et c'est la fameuse courbe d'apprentissage, c'est-à-dire on fait des expériences qui ont des conséquences, conséquences qui nous permettent d'intégrer. Puisque si on les a fait, c'est qu'on avait un certain point de vue. Okay? Donc on intègre. C'est là où c'est pas toujours évident ni agréable, parce que intégrer, ça demande, ben voilà, de l'introspection, aller plus profondément à l'intérieur de soi-même pour digérer. Intégration qui permet par contre la prise de conscience, l'éveil, l'évolution, et du coup pouvoir repartir dans de nouvelles expériences, de nouvelles expérimentations, mais avec plus de conscience. Donc générer des nouvelles conséquences, différentes des conséquences d'avant, plus éclairées, plus éveillées, qui à nouveau vont générer des conséquences qui vont permettre d'intégrer, intégrer pour expérimenter, pour expérimenter, pour réintégrer, pour réintégrer, pour expérimenter. Et cette quête faite de manière sincère ne peut que tendre vers l'évolution et la croissance personnelle. Et donc la croissance collective, si chacun le fait, et donc un monde meilleur, plus heureux, plus épanoui, et moins dans l'ego. Plus dans l'amour. Hein, puisqu'à la fin, Eckhart nous parle d'amour quand même. Et c'est là où c'est génial, à la fin, Eckhart Tolle, il bascule dans une dimension dont il ne parle pas dans les livres. En tout cas, que j'ai pas vu. Il parle d'un aspect plus spirituel, et on va justement en parler. Et il dit quelque chose d'important. Il dit que dans l'absolu, c'est pas tant l'événement qui nous fait souffrir. Il prend l'exemple des bouchons dans une voiture. Il dit, vous êtes au volant et vous arrivez dans un bouchon. Okay. Il dit, est-ce que c'est vraiment le fait que vous soyez dans des bouchons qui génère votre souffrance? Il nous invite à réfléchir. Et il dit, ou est-ce que c'est la pensée sur le fait, l'ajout de la pensée sur ce qui est, sur ce qui existe, qui devient le problème. Est-ce que c'est pas tout ce que je vais me raconter sur le bouchon qui finalement va m'emmener dans une souffrance? Oh, il y en a marre. Oh, ça recommence. Oh, mais regarde-moi ça, pourquoi ils freinent tous? Oh, mais pourquoi j'habite là? Oh, mais, oh, mais, oh, mais. Hein. Et là intervient la souffrance, conceptualisée par le mental qui commence la rumination, la projection, l'insatisfaction, la frustration, la colère, le mépris, le jugement. Okay? Et il dit, si vous vous arrêtez au fait que vous êtes dans un bouchon, ben vous êtes dans un bouchon. Qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-là, et là c'est mes mots, de vous connecter à votre état interne, de rester centré sur vous? Absolument rien. Il y a juste à ce moment-là un switch qui vient râler, une pensée compulsive. Voilà. Et ça peut être considéré comme une épreuve qui nous invite à tendre vers plus de présence, plus d'harmonie intérieure, et à observer ce petit vélo qui peut avoir tendance à juger, à étiqueter les moments, plutôt que de vivre le moment tel qu'il est réellement, parce qu'on n'a pas dit que le moment était pas bien, ou comme ceci, ou comme ça. Je veux dire, on peut faire 40 milliards de choses très sympas dans un bouchon. On peut justement se détendre, on peut écouter de la musique, on peut prendre son temps, on est là, hein, il n'y a pas d'urgence, s'énerver, ça ne fera pas avancer le bouchon plus vite. Oui, on peut interpréter, étiqueter, juger chaque moment d'une manière complètement différente, juste en étant en mesure d'observer la pensée compulsive arriver. Vous voyez? Donc, c'est très important, il fait référence à Bouddha, que le moment ne soit pas jugé, étiqueté, et de ne pas rajouter de la souffrance à un moment qui n'est pas forcément source de souffrance. Certes, c'est une porte ouverte au corps de souffrance qui se réjouit, qui se dit « Yes, je vais pouvoir râler !» Hein? Puisque le but du corps de souffrance, c'est ça, c'est d'exister au travers de la négativité. C'est notre double négatif qui chope tous les moments au vol, tous les moments de non-présence, pour s'engouffrer et pour venir auto-saboter toute la mécanique. Bon, bah ok, on a tous ça en nous, hein. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Il faut juste être en mesure de le voir, de l'observer, et puis de choisir d'y adhérer ou pas, et de se recentrer sur ce qui fait sens. Et il dit un truc aussi au tout début que je vous ai pas dit. Il dit, même si on peut faire autrement, même si on a vraiment le choix, c'est peut-être pas là qu'il le dit. Il dit, même si dans l'absolu on peut ne pas souffrir, on a quand même plus vite fait de se dire que la souffrance fait partie de l'équation et que c'est pas dramatique. Parce que quelque part, grâce à ce que je viens de dire là, ce qu'il a dit, eh ben, chaque et chacun de ces moments est une opportunité de croissance parce que, comme on disait tout à l'heure, la vie ne nous laissera pas nous écarter indéfiniment de notre chemin et qu'à un moment donné, si les portes se ferment, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne direction et que, certes, on peut le voir de manière triste et négative, mais on peut aussi le voir comme quelque chose qui nous réoriente, qui nous réamène vers quelque chose de plus juste. Et il dit... Si vous considérez que ces moments-là pas agréables sont normaux, c'est quand même plus facile à vivre du coup que de se dire non, non, moi je veux vivre dans une vie où la souffrance n'existe pas, ce qui semble peu réaliste. Même si, en effet, si on n'opposait jamais de résistance au flux de la vie, il n'y aurait pas de résistance, donc il n'y aurait pas de souffrance. Certes, c'est vrai. Conceptuellement parlant, c'est possible. Maintenant, on est quand même rare, pour pas dire inexistant, à ne pas résister aux choses. La plupart du temps, on s'adapte à un environnement, on tombe très 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 rapidement dans une zone de confort, aussi petite soit-elle, et évoluer nécessite forcément de changer de zone de confort pour basculer dans une autre forme qui devient très vite à son tour une autre zone de confort. Et finalement, ce mouvement de sortie de zone de confort est inconfortable, puisque c'est une zone de confort, donc sortir de cette zone de confort, c'est inconfortable, et nécessite forcément une ouverture à un inconnu, inconnu qui fait peur. Et donc, c'est jamais complètement bon, jamais complètement fluide à un lâcher prise total. On pourrait, dans l'absolu, rien qui nous empêche à lâcher prise complètement et à faire parfaitement confiance à la vie. Maintenant, bon, ça nécessite un peu de pratique. Donc, autant se dire que je vais résister un peu, donc je vais souffrir un peu. Et l'idée, c'est de se dire, je vais essayer de lâcher prise le plus vite possible pour glisser effectivement vers ce qui m'attend, vers ce que la vie me propose. Et puis, si je souffre un peu, c'est pas grave, dans le sens si j'éprouve quelque chose lors de l'épreuve, hein, pour revenir aux paroles d'Eckhart Tolle, ben c'est pas grave. L'idée n'est juste de ne pas rajouter de la souffrance sur la souffrance, comme dans les embouteillages. Inutile de râler en plus du fait d'être dans l'embouteillage, puisque ça, c'est la souffrance inutile que uniquement le mental vient rajouter. On peut juste rester dans ce moment présent. Il y a des bouchons. Ok. Il pleut. Ok. Pas besoin de dire « Ah, oh, il pleut, j'en ai un ». Ou pas besoin de dire « Ah, oh, il y a trop le soleil, je vais attraper des coups de soleil ». Ou pas besoin de dire « Ah, je sais pas, il y a tellement de prétextes pour râler que voilà, vous allez trouver facilement. Tu vois? Voilà, ça c'est les épreuves. Et puis du coup, il embraye sur cette fameuse pensée compulsive. Donc c'est là où il parle justement de... Est-ce que le problème c'est vraiment ce qui est en train de se passer ou pas? On vient d'expliquer, et vous l'avez bien compris, que non. Que c'est pas le problème. Enfin, que c'est pas l'extérieur le problème. C'est qu'il dit les autres. Ouais, c'est toujours les autres le problème. Et ça, on est bien d'accord. Hein. Et si vous connaissez Heureux dans sa vie maintenant, vous savez bien qu'il y a un article d'ailleurs qui en parle exclusivement de le problème, c'est pas l'autre. L'autre, il est toujours là en miroir, en résonance, pour nous montrer ce qu'on ne voyait pas forcément. Faut-il être en mesure de bah, d'y adhérer, d'avoir envie de se remettre en question, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de critiquer. Enfin, c'est un fait. Et là, il dit que donc, du coup, la solution, c'est de reconnaître le moment présent pour ce qu'il est, d'honorer le moment présent pour ce qu'il est, d'y revenir à ce moment présent comme la seule chose qui existe vraiment, le passé étant passé, on ne peut plus rien y faire, et le futur n'existe pas encore, et en plus, on a beau l'anticiper, c'est jamais comme on a prévu. Donc, soyons plus légers à travers ça et reconnaissons, aimons, honorons ce moment présent tel qu'il est, parce que tout se passe ici et maintenant et rien n'existe ailleurs que dans le moment présent. Hein, on respire dans le moment présent, ça ce sont mes mots, on respire dans le moment présent, on parle là maintenant dans le moment présent, vous écoutez cette vidéo dans le moment présent, vous l'entendez dans le moment présent, vous êtes présent à votre corps dans le moment présent. Vous respirez pas hier, vous respirez pas demain, vous respirez maintenant, et ainsi de suite. Et vos projets futurs, parce qu'il dit, il le dit aussi, il dit, on ne s'empêche pas de fabriquer des projets, je ne sais plus comment il dit exactement, de programmer des choses, mais ces choses, non seulement vous les programmez dans le moment présent, et ces choses auront la conséquence de l'intention que vous y mettez dans le moment présent. Ce futur se crée depuis maintenant. Et point. Vous ne pouvez que vivre d'instant en instant et de créer vos projets d'instant en instant avec le plus de présence possible. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils vont bien se passer. Plus vous êtes présent au projet et plus les projets se passent bien. Et donc, beaucoup de reconnaissance à travers ça. Ça me fait penser à Ho Oponopono qui dit merci, qui dit je t'aime, qui dit pardon. De reconnaître ce moment présent, de l'accepter, il dit. Et pour ce faire, il explique également que le corps est un outil puissant parce que le corps ne peut pas mentir puisqu'il n'existe que là. Je touche mon doigt là, maintenant, je respire là, maintenant, je sens mes sensations corporelles maintenant. Et cette capacité, cette intention à revenir au corps qui vit là, maintenant, le cœur qui bat là, maintenant, il ne bat pas hier, il ne bat pas demain. Me permet de revenir à ce qui existe. Ça me fait un lien, ça me fait une porte d'entrée au moment présent. Donc cultiver le lien au corps est une des solutions, selon Eckhart Tolle, hein, on est tous d'accord, pour dire, enfin, une des solutions pour revenir à ce moment présent. En aimant ce moment présent, quel que soit ce qu'il englobe, quel que soit ce qu'il inclut, parce que si ça existe, ben ça existe. Et puis maintenant, comme on sait que le problème n'est pas le moment réellement, mais l'étiquetage, l'étiquette qu'on met sur le moment, et ben le moment, il n'est pas, c'est pas un problème, le moment présent. Même si ça paraît douloureux, ben la douleur, c'est aussi une information qui nous permet de ressentir quelque chose, et forcément, dans le ressenti, dans l'accueil et dans l'acceptation, il se passe un mouvement. C'est ce mouvement qui génère une évolution. Le mouvement, c'est le contraire de l'arrêt, et la vie, c'est mouvement. Okay. Donc plus on est en lien avec ce mouvement, quel qu'il soit, sans interprétation, sans connotation, sans a priori, sans étiquette, sans opinion. Un moment. Tiens, il y a ça dans le 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 moment. Et de manière, on avance. Et il prend l'exemple de nos animaux de compagnie, nos chiens et nos chats. Et il dit, votre chien est beaucoup plus heureux que vous. Parce qu'il ne pense pas. Alors, ce n'est pas qu'il ne pense pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette identification de lui-même. Il n'a pas la pensée compulsive. Il n'a pas la pensée identifiée. Il a juste, je ne sais pas exactement ce qu'il a, une forme de pensée, mais il n'a pas le jugement. Il est dans cette espèce de spontanéité, dans le moment. Et ça me fait penser à une autre image où on voit un chien et son maître. Ils marchent, on les voit de dos. Et il y a le maître avec une bulle de pensée là au-dessus de lui qui est en train de dire « Ah oui, faut que je pense à faire des courses, tiens, faut que je rentre à telle heure, tiens, ah, le soleil va bientôt se coucher. » Et ça fait une bulle foncée. Et puis le chien, qui a aussi une bulle, qui est là avec son maître, et la bulle est vide. Il pense juste pas, hein. Il est là avec son maître. Et du coup, je ne sais plus le slogan, mais c'est voilà, votre chien est plus heureux que vous. Et c'est exactement ce que reprend Eckhart Tolle, c'est exactement la même image, où il dit simplement ça, que sans analyse, sans jugement, sans concept, sans pensée sur le moment, sans pensée compulsive du moment, il y aurait un espèce d'état d'être, ce qui nous rendrait parfaitement fonctionnel, ce qui ne nous empêche pas d'exister. Et même d'avancer et de faire des projets, mais sans avis, sans cette espèce d'opinion, sans cette espèce de truc qui la ramène tout le temps, là. Voilà. Et là, il nous dit un scoop, Eckhart Tolle. Monsieur Tolle a été SDF dans sa vie. Et à ce moment-là, il avait déjà commencé son éveil, son évolution, et en fait, il était capable de vivre son statut de SDF. Et ça, c'est très important parce qu'on a toujours des prétextes. On dit toujours « Oui, mais c'est facile pour les autres. Oui, mais maintenant, Eckhart Tolle, il est à l'abri du besoin, c'est facile pour lui d'être présent. Oui, mais si ça se trouve, son père était riche et du coup, il a manqué de rien. Oui, mais lui, il a une femme ou des enfants ou un mari et des enfants. Oui, mais lui, il a... » Et donc, nous, on est toujours cette pauvre petite victime qui n'a jamais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse ou, en tout cas, qui a des excuses. Hein? Et Eckhart Tolle était SDF. Donc, c'est bien qu'il le précise, parce que ça pourrait être une superbe excuse. On a forcément tendance à se dire qu'un SDF ne peut pas être heureux, parce qu'il a quand même des conditions de vie qui sont difficiles. Eh ben non. Le Tertrullet nous dit, est-ce que j'étais heureux? Ben oui. Ben oui, ben oui. Parce que j'étais dans le moment présent. Et le moment présent, il existe, quel que soit mon statut. Et il y a des gens qui venaient s'asseoir à côté de moi, et on parlait, et j'étais là, dans ce moment présent, en train de vivre ce que j'étais. Et bizarrement, ben voilà, il a survécu. Hein. Il a vécu cette initiation. Il parle aussi à ce moment-là de créativité. Il dit, c'est dans ces moments-là que vous créez. Parce que si vous êtes toujours en train de penser, vous ne laissez pas cette espèce de connexion, cette espèce d'intuition arriver à vous, venir à vous. Donc il faut des moments de pause avec soi-même, sans rien faire d'autre, pour laisser cette chose venir à soi. Et finalement, cette chose venir à soi, c'est justement là d'où on vient, et il en parle après. Et il dit, ben voilà, en tant que SDF, j'ai vécu de l'initiation, j'ai vécu de ces moments-là, j'ai vécu le moment présent. qui n'est pas incompatible avec ben, le bonheur ou quoi que ce soit d'autre. La croyance qu'il faut penser, voilà, il disait j'étais parfaitement capable de ne pas penser, c'est-à-dire d'un point de vue pensée compulsive, d'être présent, même dans un cas aussi a priori tragique et dramatique que le statut de SDF. Et ben voilà, c'est un, ben c'est beau comme témoignage et c'est chargé d'espoir. Cette espèce de désidentification à ce moment-là, à un statut, à qu'est-ce qu'on va dire de moi, donc à une image, à comment je vais m'en sortir, donc à de la peur, à de la projection, à quoi je ressemble ici, donc à l'identité. Voilà. Et il dit, il parle aussi de. Pour cesser les pensées compulsives, il prend également cette image de en dedans ou en dehors et il dit, vous n'avez pas forcément besoin de pour dépasser ça on peut le faire au travers en incluant le moment présent ou il prend l'exemple de d'activités ou sportives ou drogues des choses comme ça. Pour éviter de penser, on peut finalement se noyer, s'inhiber au travers de choses qui nous court-circuitent, mais forcément qui nous plombent également, hein, qui nous descendent plutôt qu'ils nous font rayonner. Et que donc il y a une solution qui existe et qui est efficace, c'est celle de l'acceptation totale dans le moment présent et dans la conscience de qui l'on est vraiment. Ok? Et du coup, la conscience de qui l'on est vraiment, il continue en disant, alors du coup, l'idée c'est quoi? C'est à quoi ça sert tout ça? Et c'est là qu'il parle de choses dont il parle pas souvent, en tout cas que j'avais pas vu dans les bouquins jusqu'à présent, et je pense qu'il n'en parle pas. Il parle toujours des moments présents, de pleine conscience et tout, mais au-delà de ça, pourquoi faire? À quoi ça sert? Et finalement, il dit, cette paix, cette quête, ce chemin, finalement, cette intention de vérité, ça nous emmène à cette fameuse phrase connais-toi toi-même, c'est-à-dire mais qui je suis vraiment. Si je suis pas mon corps, si comme Narcisse, je suis pas mon image, si je suis pas c'est pourquoi je me prends, si je suis pas mes pensées, si je suis pas tout ce que je me raconte, si je. Ok, si j'arrête, comme je disais au départ, si j'arrête d'être en fonction d'un conditionnement, si je ne suis plus conditionné, si je fais l'expérience des choses par moi-même, si j'arrête de croire tous ces concepts, si je sors de la conceptualisation comme l'outil Eckhart Tolle, je tombe sur le vrai qui je suis, la vraie vérité. La vraie vérité, et c'est là où on tombe dans un langage plus spirituel, où je tombe sur quelque chose de plus grand. Une espèce de conscience, il appelle ça. La conscience, certains l'appellent la matrice, d'autres l'univers, d'autres le grand tout, d'autres Dieu. Chacun y va de son vocabulaire, mais toutes ces croyances nous ramènent un peu toujours au même endroit, à savoir, ben, il y a quelque chose de plus grand que l'identité humaine, que l'identité égotique, que la pensée, que. Et tout ça a un sens, est un équilibre. Qui vient d'une espèce de grand tout, et Eckhart Tolle l'appelle la conscience. Et je suis ça. Il dit l'expérience terrestre, alors ça c'est avec mes mots, mais il dit qu'on est une portion de ça. Il dit qu'on est une. Il prend l'exemple du rayon de soleil. Il dit vous percevez le rayon de soleil, et pour autant le soleil vous touche pas vraiment. Vous êtes. Parce que si vous touchez, vous brûlerez. Vous êtes une émanation du soleil. Et ben, ce que nous sommes là est une émanation de quelque chose de plus grand. Un petit peu, moi je prends souvent l'exemple de la goutte d'eau dans l'océan. C'est comme si cette gouttelette d'eau qui est projetée par les vagues, c'est comme si à un moment donné, elle s'identifiait et elle se prenait pour quelque chose d'identifiable. Et ce qui n'est pas faux, dans un facteur temps, la gouttelette d'eau, elle est bien effectivement identifiable. Elle est hors de l'eau. Et ça, à ce moment donné, là, précis, c'est le mental, c'est l'ego, c'est l'identification, c'est le jugement. Je me prends pour une gouttelette d'eau, je me prends pour un corps, je me prends pour une image, je me prends pour un rôle social. Et cette gouttelette d'eau retombe dans l'océan. Et à ce moment-là, aller retrouver la gouttelette d'eau. Et c'est ça, c'est cette conscience que peut-être qu'à un facteur temps, on est divisé, mais dans l'absolu, à une échelle plus grande, plus spirituelle, on fait partie de la même chose. C'est un peu comme si on était tous des gouttelettes d'eau dans un unique océan, et c'est comme si nous venions tous de cet unique océan. C'est comme si on était tous les rayons du soleil émanés de ce même soleil. C'est l'image que prend Eckhart Tolle. Et que notre cerveau, notre capacité d'être présent, était un instrument de la conscience. Et on peut le prendre avec d'autres vocabulaires quand je parle de l'histoire de la petite âme, cette petite âme qui descend, qui est une extension de la conscience, et qui se dit, mais alors j'en suis où? J'en suis où dans mon évolution personnelle? Ah, bah tiens, il faudrait que je vive telle et telle expérience pour continuer à apprendre. Et c'est là où la petite âme décide de venir sur la planète Terre dans un certain contexte, quel qu'il soit, pour venir continuer son évolution. Et c'est là où elle s'équipe de son tempérament, de son caractère, de sa couleur de peau, de yeux, de cheveux, de ce que vous voulez. Et c'est là où voilà, on a un équipement pour pouvoir être ici, là, maintenant, fonctionnel et apprendre et évoluer. Dans l'idéal, avec cette conscience de qui l'on est et d'où on vient, pour pouvoir vivre ce moment terrestre comme une expérience belle, même si parfois douloureuse, pour pouvoir avancer, cheminer et se souvenir, parce qu'il dit ça, retrouver la vérité, se souvenir de qui l'on est vraiment au travers de ce chemin qui finalement n'est plus un chemin terrestre, mais plutôt un chemin spirituel sur la planète Terre. Et du coup, tout est prétexte à une croissance, à une conscience, à une évolution, et à de plus en plus de joie, puisque grandir, c'est joyeux. Et on peut le faire en expérimentant, en vivant des choses, en accueillant, par l'interaction, par le miroir. Et il finit comme ça en disant, ben, on est tous, du coup, les mêmes. On vient tous d'un même chose, on a juste des formes différentes, mais sortant. Encore une fois, de l'identification à la forme, il reste quoi? Il reste l'essence. Il parle d'essence. C'est chouette parce que moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup parler d'essence. Et il parle de ce qu'est essentiel. Et il dit que ce qui est essentiel est invisible, il cite Saint-Exupéry. Et que on reconnaît l'autre. Il parle d'amour, de reconnaissance de quand on aime l'autre, on s'aime, puisque tout ça est un grand tout. Et que la méditation, bah voilà, la méditation dans tout ça, le moment présent dans tout ça, la méditation est un outil pour accéder au moment présent, et le moment présent lui-même est un outil pour se reconnecter à qui l'on est. Et le but ultime est là, se réaliser en tant que qui l'on est, et donc en tant que ce pourquoi on est fait, le mettre en place et se réaliser, faire ce pourquoi on était venu à ce moment-là. Voilà, il finit comme ça et il se lève et il s'en va. Et la foule applaudit. Et c'était fini. C'était vachement chouette. Voilà. Donc je mettrai à votre disposition dans le pouvoir du moment présent, c'est une formation pour ceux qui ne le savent pas, dans laquelle il y a justement, c'est ça l'intention, de se reconnecter à ce pourquoi en effet, en passant par le moment présent, par les émotions, par le mental, par la création de l'intuition, par la création également de réalisation de soi plus concrète à travers des projets, et puis à travers l'amour aussi, l'amour plus universel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le replay, donc je l'ai commandé et du coup je le mettrai à votre disposition dans bonheur.tv. Vous aurez juste à vous abonner pour y avoir accès. Voilà. Qu'est-ce que. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, hein, que je n'ai pas salué au fur et à mesure. Je me suis appliqué à rester bien concentré sur la diffusion de cette information. Voilà. Et puis, bah, la parole est à vous. Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour ceux qui ne sont pas là, on pourra en parler après. Il y a Françoise qui dit waouh, merci Maxime, avec grand plaisir. Merci Maxime pour ce témoignage, dit Valène. C'était, ouais, et vous allez voir à travers le. Je vais aller sur la page Facebook moi aussi pour mieux vous voir. Vous allez pouvoir enfin, voir l'intégralité du. Bah, de tout ça. L'intégralité de tout ça avec l'enregistrement officiel. J'ai pas la date. C'était pas précisé sur la commande, donc j'ai pas la date de quand. Mais voilà, elle sera disponible à un moment ou à un autre. Et puis, voilà. Ok. C'est tout pour. Et Thierry qui dit génial. Carole qui dit bonjour à tous. Bonjour Maxime, je suis contente de la première fois que j'ai l'occasion de t'entendre en direct. Je viens de prendre la ligne. Ça fait du bien ce que tu dis. Moi, je commence à me sentir mieux. Mieux du moment que j'arrive à rester consciente avec moi-même. Comment je me sens là maintenant, du comment je me sens là et maintenant, et que je suis angoissée ou mal de pas en faire un drame. Bonjour à tous, me dit Cathy. Thierry qui dit tout va bien. Super. Excellent. Voilà, jeunes gens, ben je vais vous laisser intégrer tout ça, infuser tout ça, en vous souhaitant un joyeux moment présent. J'ai bien lu vos nouvelles demandes pour le live suivant, que je réactualise, donc on pourra parler ben, soit du fameux vide, comme nous propose Solène, ou on pourra parler, vous aviez d'autres questions, c'était quoi déjà? Fabienne, Claudine, Aude. Bon, je regarderai, je vois plus. Il y avait autre chose, il me semblait, mais je le vois plus là tout de suite maintenant. J'ai des situations précises en particulier avec Aude. Ok. Bon, on va voir. Et ben en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bon moment présent donc. Réécoutez tranquillement et attentivement cette vidéo. Je pense que je vais la diffuser plus largement parce qu'elle est quand même, très très utile. C'était vraiment chouette de pouvoir vivre ce moment et c'est bien d'avoir ce genre d'informations. C'est vraiment, ça fait vraiment grandir. Ça nourrit. Hein. Donc je vais la diffuser plus largement. En attendant, je vous dis à très bientôt dans notre camp de base des chercheurs sincères. Et puis, et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard, je vous embrasse. Salut.